Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Alain Juppé arrive au Conseil constitutionnel. Il va quitter la mairie de Bordeaux et par la même occasion la vie politique active. La nomination de l'ancien Premier ministre constitue une vraie surprise. Les explications de Stéphane Robert dans un instant. Parents 1 et parents 2, ce sont les termes qui figureront désormais dans les formulaires scolaires. Exit donc le père et la mère. L'amendement voté hier à l'Assemblée fait polémique, nous dira Rosalie Lafarge. Emmanuel Macron à Gargilès-Dampierre dans l'Indre demain. La rencontre des élus du département, le président de l'association des maires de l'Indre, Michel Blondeau, est l'invité de ce journal. En Espagne, le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, va sans doute convoquer des élections législatives anticipées au printemps. Le Parlement espagnol a rejeté aujourd'hui son projet de budget. Le reportage de Marie-Hélène Ballesteros. C'est un petit séisme à l'échelle de la vie politique française. Alain Juppé s'apprête à rejoindre le Conseil constitutionnel sur proposition du président de l'Assemblée, Richard Ferrand. L'ancien Premier ministre devrait succéder à un autre ex-locataire de Matignon, Lionel Jospin. Avec Alain Juppé, deux autres personnalités arrivent au Conseil constitutionnel. Le sénateur François Pillet et l'ex-ministre Jacques Mézard. Stéphane Robert, la surprise est totale ce soir, car rien ne laissait présager cette nomination d'Alain Juppé.
Ce genre de nomination fait l'objet de discussions de couloirs et de tractations durant des semaines, voire des mois, avant leur officialisation. Et jusqu'ici, il y avait trois noms qui revenaient avec insistance. Pour le président du Sénat, Gérard Larcher, le choix était, semble-t-il, arrêté depuis longtemps. Il avait prévu de désigner le sénateur du Cher, François Pillet. Et c'est bien François Pillet qu'il propose pour le poste. Aucune surprise de ce côté-là. Le président de la République, lui, avait l'intention, nous disait-on, de nommer au Conseil constitutionnel l'actuel président de la Cour des comptes, Didier Migaud, ce qui aurait permis de libérer la place à la Cour des comptes pour l'actuel commissaire européen aux affaires économiques, dont le mandat arrive à échéance d'ici quelques mois, Pierre Moscovici. Mais finalement, exit Didier Migaud, celui-ci n'était pas très allant, nous dit-on, et Emmanuel Macron propose l'ex-ministre Jacques Mézard qui, à l'origine, était pressenti pour être le candidat proposé par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Et c'est là qu'intervient la surprise et que surgit le nom d'Alain Juppé, jamais évoqué jusqu'ici. On ne savait pas qu'il se voyait un destin au Conseil constitutionnel, ni qu'il envisageait d'abandonner sa mairie de Bordeaux dès lors qu'il n'avait pas encore préparé sa succession. Alors tout ça pose un certain nombre de questions et c'est d'autant plus surprenant que ses très proches amis politiques n'étaient pas dans la confidence, notamment les anciens ministres et premiers ministres Dominique Bussereau et Jean-Pierre Raffarin. Tous deux sont restés comme des ronds de flanc quand ils ont appris la nouvelle, à 17h, par voie de presse, comme tout le monde.
Stéphane Robert, merci. Première réaction d'Edouard Philippe ce soir sur LCI. Cette nomination d'Alain Juppé est une très bonne chose pour la République, affirme le Premier ministre. Edouard Philippe qui avait soutenu Juppé lors de la primaire de la droite remportée par François Fillon fin 2016. Alors en arrivant au Conseil constitutionnel, Alain Juppé va effectivement devoir abandonner son mandat de maire de Bordeaux. Il s'en expliquera demain lors d'une conférence de presse dans sa ville. Alain Juppé qui était maire de Bordeaux depuis 1980. Un mandat qu'il avait abandonné pendant deux ans entre 2004 et 2006 après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Quand le père et la mère disparaissent des formulaires scolaires. C'est en tout cas le sens de l'amendement voté hier à l'Assemblée. Il est désormais question de parents 1 et parents 2, une formulation qui permet d'inclure les familles homoparentales. Cet amendement s'inscrit dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. Le texte défendu par la députée LREM Valérie Petit est loin de faire l'unanimité, Rosalie Lafarge.
De l'inscription à la cantine à l'autorisation pour une sortie scolaire, aujourd'hui, très souvent, les formulaires portent les mentions père et mère. C'est dépassé pour Anne Bruniera. La députée de La République En Marche défend cette proposition de sa collègue.
C'est un amendement extrêmement pragmatique. Ce qui est important lorsqu'on inscrit un enfant à l'école, c'est qui est son responsable légal. Véritablement, c'est ça qu'on recherche. Il se trouve que parfois c'est un père, parfois c'est une mère, parfois c'est une grand-mère, parfois c'est une famille homoparentale. Et donc, ces appellations permettent de comprendre tout le monde dans le même formulaire. Et c'est pas l'affichage, c'est extrêmement pratique, hein. Ça correspond à la vie de nos familles aujourd'hui.
Et une fois n'est pas coutume, la France Insoumise est d'accord avec cette proposition de la majorité, le député LFI Éric Coquerel.
On est totalement favorable. Ça s'adapte à l'évolution de la société et les qualités républicaines doivent être traduites à un moment donné, y compris dans le vocabulaire.
Mais c'est du grand n'importe quoi pour Philippe Gosselin, élu Les Républicains à l'Assemblée nationale.
Il ne s'agit pas de méconnaître l'homoparentalité, mais pour reconnaître l'homoparentalité, on est en train de nier le fait parental avec l'existence d'un père, d'une mère. Il y a une forme de négation, parce que qui demain, dans un couple hétérosexuel, qui est le parent 1, qui le parent 2? En réalité, on nie, et ça me paraît très grave, les fonctions de père et de mère qui ne sont pas interchangeables. On a cédé à la facilité démagogique et dogmatique.
Pas pour cet amendement non plus le ministre de l'Éducation et la rapporteure LREM du projet de loi pour une école de la confiance. Jean-Michel Blanquer et Anne-Christine Lang ont donné un avis défavorable. Pour eux, le changement réclamé ne relève pas du domaine de la loi.
Le reportage de Rosalie Lafarge à l'Assemblée. Emmanuel Macron poursuivra demain son tour de France du grand débat. Le président se rendra dans l'Indre, plus exactement à Gargilès-Dampierre, pour une réunion plus discrète que les précédentes. Fini les échanges avec des centaines de personnes rassemblées dans une salle. Le chef de l'État discutera cette fois avec une trentaine d'élus et d'entrepreneurs. Invité de ce journal, Michel Blondeau, président de l'Association des maires ruraux de l'Indre, maire de Déol, près de Châteauroux. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Michel Blondeau, vous participerez à cette réunion demain. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez ce rendez-vous avec Emmanuel Macron?
Nous abordons cette visite avec plaisir, bien sûr, puisque ça permettra déjà qu'on parle de notre département, puisque le département de l'Indre, malheureusement, est un département du centre de la France très rural qui est un peu oublié. Et puis ensuite, va nous permettre d'évoquer avec lui les principaux problèmes qu'on rencontre et que nos administrés rencontrent. Bien entendu, on va avoir quelques spécificités par rapport à tout ce qu'il a entendu jusqu'à maintenant dans les grands débats. Et on se prépare à parler avec lui des problématiques municipales et puis d'économie, puisque c'est le thème qu'il a choisi. Et dans un département comme le nôtre, on a bien besoin d'un coup de pouce sur les problèmes économiques.
Et quels sont justement les principaux problèmes que vous souhaiteriez évoquer devant le président?
Moi, j'évoquerai trois sujets. Le premier sujet, très rapidement, c'est la place des maires, la reconnaissance des maires qui doit être réhabilitée. Et ça, dans les contributions de nos administrés, j'ai beaucoup de témoignages où justement les administrés disent « rendez-nous nos maires, redonnez plus de responsabilités à nos maires, ce sont eux qui sont en contact avec la population, ce sont eux qui assurent le lien social, on a besoin d'eux ». Ça c'est le premier message qui est passé et que je transmettrai. Deuxièmement, la dépendance. Vraiment, je voudrais dans un département comme le nôtre où il y a beaucoup de personnes âgées qui de plus en plus sont dépendantes puisque le vieillissement est là. Et les gros soucis que nous avons, c'est d'assurer la dépendance des personnes, soit en maison de retraite, en EHPAD, soit à domicile. Et là, ça devient dramatique et il faut très vite prendre des décisions parce que on s'aperçoit que les soins qui sont apportés en maison de retraite, faute de personnel et de personnel compétent, puisqu'il y a différents niveaux et notamment les infirmiers, on frôle quelquefois la maltraitance dans certains établissements. Et ça n'est pas acceptable. Les personnels sont fatigués, on ne trouve plus de personnel parce que les salaires ne sont pas motivants et il y a beaucoup d'arrêts de maladie.
Et donc il faut des moyens, il faut des moyens pour faire face à ces problèmes de dépendance.
Il faut trouver des moyens et pour trouver des moyens, il faut trouver des financements. On sait bien que le problème il est là. Mais là, on est dans une situation où vraiment on est à un point de rupture. Et le troisième point, c'est l'inclusion numérique. Alors, on se retrouve là aussi devant une population qui est abandonnée, c'est-à-dire la population qui n'est pas formée au numérique, d'autant plus qu'on a encore des zones dans le département qui ne sont pas servies en téléphonie mobile et en couverture numérique. Donc, ces personnes ne sont pas formées, se retrouvent de plus en plus devant une accélération des démarches qui se passent toutes maintenant, ou la plupart, par le numérique, et elles sont vraiment paniquées, elles ont besoin d'être accompagnées. Moi, j'estime que c'est autour de 25 à 30% des personnes qui, aujourd'hui, dans le département de l'Indre, ne pratiquent pas Internet et sont embêtées pour faire leurs démarches de plus en plus. Donc, elles se retournent beaucoup vers les secrétaires de mairie, elles se retournent beaucoup, mais c'est souvent pas suffisant. Et vous savez ce que c'est une personne âgée qui est déjà très embêtée face aux démarches administratives et en plus face aux démarches administratives qui ne peuvent plus se faire par papier. Donc on a vraiment un chantier qu'il faut que le président en soit conscient, et puisqu'il y a un secrétaire d'État qui est chargé du numérique. Nous, on est prêts à contribuer, mais il faut qu'on soit accompagné fortement par l'État sur ce sujet-là.
Michel Blondeau, ce grand débat est né du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que selon vous, les Gilets jaunes doivent arrêter de manifester, se mettre autour de la table pour participer à ce grand débat ?
Moi, je crois, pour moi, il n'y a plus de Gilets jaunes. Pour moi, ce qui prend le dessus aujourd'hui, c'est les effets nuisibles et néfastes des actions qui sont encore en cours. Les Gilets jaunes avaient certainement des bonnes intentions pacifiques, mais maintenant ça a pris un tel tournant que c'est contre-productif. On se retrouve maintenant avec des déficits, on se retrouve avec des chômeurs qui ne devraient pas y être, on se retrouve avec des entreprises en difficulté, avec des commerçants en difficulté. Donc, en voulant favoriser au départ, avec justice certainement, un certain nombre de revendications, maintenant, on met des gens en difficulté qui ne méritent pas d'être en difficulté. Et comment on va sortir de ça, c'est très ennuyeux.
Dernière question, Michel Blondeau. L'opposition voit dans ces débats une façon pour Emmanuel Macron de faire campagne pour les européennes. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Moi, je pense que l'opposition devrait, dans ces cas-là, s'abstenir de faire de la politique politicienne. Notre pays est en difficulté. Il y a un président de la République et puis des instances démocratiques qui ont été démocratiquement élues, qui sont équilibrées entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je pense que l'opposition devrait être plus objective et plus consciente des enjeux et de ce vers quoi on pourrait aller si ça se dégrade encore. Donc je crois que là, il y a besoin d'union nationale plus que de querelles politiciennes.
Michel Blondeau, président de l'Association des maires de l'Indre, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La première liste Gilets jaunes aux européennes perd sa chef de file. Ingrid Levavasseur annonce ce soir sur LCI abandonner la liste du ralliement d'initiatives citoyennes, RIC, qu'elle entendait mener pour les élections européennes. Ingrid Levavasseur explique vouloir, je cite, repartir sur de bonnes bases et lisser le nom RIC sans toutefois renoncer. L'Espagne va retourner aux urnes dans les prochaines semaines. Le gouvernement socialiste a été désavoué aujourd'hui au Parlement. Son projet de budget a été rejeté. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a perdu le soutien des indépendantistes catalans qui lui avaient permis d'accéder au pouvoir l'an dernier. Le reportage à Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
Par conséquent, les amendements sont approuvés et donc le projet de budget de loi 2019 est rejeté.
Comme prévu, il n'y a pas eu de surprise de dernière minute. Jusqu'à la fin, les nationalistes basques Podemos et les socialistes ont tenté de convaincre les indépendantistes catalans de débloquer la situation. Mais ces derniers avaient mis la barre trop haut. Pour soutenir le budget de Pedro Sanchez, ils réclamaient en contrepartie que soit accepté le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Une ligne rouge que le gouvernement socialiste a rejetée. Résultat, le budget annuel n'a pas été approuvé au Parlement et par conséquent, Pedro Sanchez se retrouve dos au mur avec une législature qui semble toucher à sa fin. Ce qui ravit le leader de l'opposition et président du Parti populaire, Pablo Casado.
Aujourd'hui, nous avons contribué à la prise d'une décision au Parlement qui marque, je crois, un point d'inflexion dans la législature. Ou plutôt, cela marque la fin du voyage de Pedro Sanchez à la tête du gouvernement. Je veux transmettre un message de confiance à tous les Espagnols. Le Parti populaire reste le principal parti en Espagne et nous sommes prêts à revenir à la tête du gouvernement.
9 mois après son arrivée au pouvoir, Pedro Sanchez est sur la sellette. Vendredi prochain, il devrait convoquer des élections législatives anticipées à la sortie du Conseil des ministres.
Marie-Hélène Ballestero, correspondante en Espagne. Et les sondages donnent aujourd'hui une majorité à la droite espagnole au sens large, depuis les centristes de Ciudadanos au parti d'extrême droite Vox, en passant par le Parti populaire. Ces trois partis se sont déjà entendus en Andalousie pour renverser le gouvernement régional socialiste. Un attentat en Iran contre l'élite militaire du régime. 27 membres des gardiens de la révolution ont trouvé la mort aujourd'hui dans une attaque à la voiture piégée. L'attentat a eu lieu dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays. Il a été revendiqué par un groupe djihadiste sunnite, Jaïch al-Adl. Il intervient au moment où l'Iran célèbre le 40e anniversaire de la révolution islamique. Le temps demain sera très ensoleillé grâce à un puissant anticyclone. Seuls quelques nuages d'altitude viendront perturber le ciel. Bleu, température minimale des gelées jusqu'à moins 6 sur la moitié est, de 1 à 7 degrés sur les autres régions. Les maximales sont en hausse, elles iront de 10 à 17 degrés du nord au sud et même 19 degrés localement sur le Pays basque. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetot.